Atelier des médias, troisième partie. L'autre actu, c'est celle des blogs et des blogueurs. Et c'est Mondoblog, avant notre rendez-vous avec Francis Pisani, qui nous parlera de la grippe porcine qui s'est également répandue ces derniers jours sur Internet. Comment s'y retrouver? Les réponses de Francis dans un quart d'heure.
RFI.
Atelier des médias.
Cédric Calongi.
Philippe Trouve. Mondoblog. Des blogs et des blogueurs.
Mondoblog, c'est l'actualité des blogs et des blogueurs francophones et tous les trucs des meilleurs blogueurs chaque semaine. Mondoblog dans l'atelier des médias avec Cédric Calongi. Bonjour Cédric.
Bonjour Philippe.
C'est le grand retour après deux semaines d'absence. Tu t'es rendu dans le Caucase, me dit-on, en Géorgie précisément.
Exactement. J'étais avec la 84e promo de l'école supérieure de journalisme de Lille. Il était question d'alimenter un site internet avec des informations sur la vie géorgienne et bien sûr après réaliser un magazine sur cette vie avec des photos, avec des textes. Avec le quotidien de la Géorgie, un pays dont on a beaucoup parlé parce qu'il y a eu le conflit avec la Russie et dont on parle très peu parce que l'ambiance sur place est assez différente de ce qu'on peut percevoir ou de ce qu'on peut entendre dans les médias.
Donc il y a un blog qu'on peut retrouver, dont on donnera l'adresse sur le site de l'atelier des médias où on peut voir le travail de ces étudiants en journalisme. Voyons maintenant ce qui a retenu ton attention sur les blogs cette semaine.
Un livre qui infirme l'idée reçue selon laquelle le net tue l'écrit. Et le livre est intitulé « L'étoile du berger » et c'est Angus Kyonga, si je prononce bien, qui a déjà publié son livre à travers un blog en ligne et ensuite l'a sorti en format papier et qui a déjà été vendu à 500 000 exemplaires alors que sur son site internet, il y avait déjà 2 millions de visiteurs dessus.
Question d'orthographe sur les blogs. Bien écrire pour un blog, Cédric, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que la forme compte autant que le fond?
C'est une question qui se pose souvent. Les blogueurs sont accusés de massacrer la langue et de ne pas respecter les règles grammaticales ou orthographiques.
On reviendra sur cette question. Comment écrire sur un blog avec tes conseils, Cédric, dans une dizaine de minutes. Les blogs et les blogueurs francophones, c'est Mondoblog dans l'atelier des médias tous les samedis sur RFI et à tout moment sur le site de l'atelier des médias.
RFI. Et tu donc bien heureuse.
D'un seul geste, je publie ma petite chronique locale et je deviens mon petit média.
L'atelier des médias. Cédric Calongi. Philippe Couve. Mondoblog.
À quoi ça sert de tenir un blog? Ça peut servir à beaucoup de choses et notamment à enseigner. Pourquoi? Comment? C'est le thème de notre discussion du jour. Avec nous en studio, Vincent Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du site Le Web Pédagogique. Comme son nom l'indique, vous évoquez l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement au sens général. Est-ce qu'on utilise beaucoup les blogs aujourd'hui dans les classes?
Dans les classes, pas forcément. Dans la relation élève-professeur, de plus en plus.
Ça sert à quoi, un blog, lorsqu'on est professeur?
Je crois que ça sert à une chose toute simple, c'est d'essayer de résoudre un problème pédagogique qui est de faire quelque chose avec Internet et ses élèves. De plus en plus, les professeurs, en particulier au collège, peut-être un petit peu moins au lycée ou au primaire, se rendent compte que leurs élèves passent un temps fou sur Internet, que c'est devenu leur première source d'acquisition de connaissances, en plus de l'école évidemment. Et donc ils se rendent bien compte qu'il faut faire quelque chose avec ce média et leurs élèves. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est d'intégrer ça intelligemment dans un parcours pédagogique. Et une des façons les plus simples de le faire, c'est d'ouvrir un blog.
On imagine que c'est assez faisable avec des lycéens, par exemple, qui souvent ont eux-mêmes un blog, enfin une partie d'entre eux ont déjà un blog, en tout cas en France. Mais est-ce qu'on peut commencer plus tôt? Au primaire, au collège, on peut déjà utiliser des blogs?
Oui, dès le cycle 3, ça commence.
C'est quoi le cycle 3?
Le cycle 3, pardon, c'est CM1, CM2, donc ce sont des enfants de 7-8 ans. Bon, évidemment, il faut quand même d'abord savoir écrire. Mais je vous dis ça, puis en même temps, sur le web pédagogique, on a des blogs de maîtresses de maternelle. Alors évidemment, c'est pas dans le rapport aux élèves, là, c'est dans le rapport aux parents. Hein, mais le cahier de vie en maternelle, où on raconte les comptines du jour, on maintient cet espace de communication entre, on va dire, prof et parents. C'est un outil qui est tellement simple et il y a tellement de choses à faire passer dans ce jeu à trois entre les parents, les élèves et les profs que de plus en plus le font.
Mais c'est pas un peu compliqué quand même pour les enseignants parce qu'il y a un monde scolaire qui est bien balisé avec des livres, avec des programmes, avec des règles de fonctionnement. Et là, si on dit qu'on va sur le web où on a l'impression que c'est un monde un peu sans règles, un peu sans limites, comment est-ce qu'on fait avec ça?
Je crois pas que ce soit compliqué parce qu'en réalité...
Il n'y a pas des blocages chez certains enseignants, difficulté de considérer que ça peut être un outil, pas forcément de l'utiliser, mais même simplement de considérer que ça peut être un outil.
D'abord, je crois que un prof, Une fois qu'il a fermé la porte de sa classe, il a l'habitude de faire plein de choses et qui sortent souvent des chemins balisés, etc. Donc en réalité, hein, l'enseignement aujourd'hui, c'est déjà un rapport entre un petit groupe d'élèves et un professeur et sur lequel chacun fait à sa manière avec des choses qui fonctionnent avec un certain groupe d'élèves, qui fonctionnent avec certains profils de profs, etc. Donc en réalité, la créativité qu'on peut avoir sur un espace internet, c'est pas très différent de la créativité qu'on peut avoir dans la salle de classe. Alors après, sur est-ce que c'est difficile à faire, etc. Moi, je crois que de plus en plus, les profs, ils le font pas pour se faire plaisir ou parce que c'est sympa ou c'est innovant. Non, ils le font juste parce que c'est efficace dans la façon de faire progresser un groupe d'élèves.
Ça apprend quoi ?
Alors, il y a plusieurs choses. Hein. On voit en gros trois usages. Hein. Le premier usage, c'est j'ouvre un blog pour ma classe. Et puis ça va être un espace d'information et de communication. Et donc en gros, c'est une version un peu corrigée du cahier de texte. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que pour les absents, les malades, ceux qui ont mal noté, etc., ça joue son petit rôle, etc. Bon, ça c'est facile à faire. La valeur ajoutée, elle n'est pas très compliquée, c'est le cahier de texte. Bon, vous avez des versions dérivées de ça. Hein. On fait un voyage à Paris, on fait une classe de neige, on fait une classe à la mer.
Bon, après, un voyage en Géorgie, on ouvre un blog.
Exactement. Non, mais les journalistes de l'école de Lille, là, c'est presque ça. Alors, le deuxième usage qui vient souvent après, c'est de se dire, tiens, mais puisque j'ai installé un endroit dans lequel finalement les élèves, les parents viennent de temps en temps, est-ce que je peux pas en profiter pour leur transmettre des connaissances d'une autre façon ? C'est pour ça qu'on est prof, hein, c'est pour faire passer des connaissances, etc. Et là, là, il y a un vrai plaisir à le faire, hein, parce que on peut faire sur Internet des choses qu'on peut pas faire en classe. Faire un lien hypertexte, par exemple. Montrer une petite vidéo, faire un petit quiz, hein, ça ouvre le monde avec un média qui est assez efficace pour ça à ses élèves. Et donc, de plus en plus de profs, non seulement font le cahier de texte, mais en plus, ils font des petits compléments de cours. Et là, après, c'est fascinant à regarder parce qu'ils le font chacun à sa façon, chacun avec leurs talents qui sont très, très différents. Et c'est comme, enfin moi quand je regarde ça, je suis pas dans la classe, mais j'ai quand même le sentiment d'y être, quoi. Puis le troisième usage, pour compléter, ça rejoint finalement ce que vous avez vu là avec les journalistes de Lille, c'est un truc un petit peu plus avancé, donc il y a moins qui le font, c'est on fait un projet avec la classe, et le projet il est publié sur le blog de la classe. Et donc là, à ce moment-là, les élèves passent de l'autre côté du miroir, hein, et on fait de l'éducation aux médias. Comment on publie, comment on écrit, comment on cherche l'info, etc.
Mais est-ce que vous pensez que c'est assez mis en valeur le fait d'utiliser les blogs à l'école ? Parce que c'est vrai que les élèves prennent en main, mais il y a des enseignants qui ne sont pas très à l'aise avec ces technologies parce que c'est beaucoup plus pour les jeunes. Et d'autre part, il y a aussi le fait que il n'y a pas vraiment d'éducation aux blogs. Les jeunes y vont un peu de manière éparpillée, un peu barbare. Mais est-ce que l'école joue un rôle d'éducation aussi à ces technologies ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que effectivement, ce qu'on appelle les digital natives, hein, ceux qui sont nés avec ces technologies, ils y étaient avant les profs. Hein. Donc, en gros, je sais pas moi, une classe de collège en France, on a la moitié qui est sur MSN et l'autre moitié qui est sur Skyblog. Hein, donc, c'est assez massif. Ok. Donc, ils ont un temps d'avance et ils ont une sorte d'aisance. En tous les cas, ils en ont pas peur. Ok. Mais maintenant, je crois que les profs, ils y vont non pas parce que l'institution le leur demande ou parce qu'il y a une infrastructure qui les accompagne, ça. Non, ils le font parce que leur problème ou leur ambition, c'est de faire progresser les élèves. Et quand, de façon de plus en plus fréquente, vous avez des élèves qui vous disent « Monsieur, c'est pas vrai ce que vous me dites, moi j'ai vu sur Internet que... » Là, vous êtes prof, vous dites « Attends, il faut quand même que je lui explique, il suffit pas de voir un truc sur Internet que pour autant, ça devienne une connaissance sur laquelle il peut compter. » Donc en fait, je crois que les professeurs, ils le vivent de façon quotidienne, alors de façon plus ou moins approfondie en fonction des populations avec lesquelles ils travaillent, mais voilà, ça existe dans l'univers des enfants. C'est pour eux un moyen d'acquérir des connaissances, et donc le rôle du prof, c'est de les guider là-dedans, de les accompagner, et ils le font de la même façon finalement que, je sais pas moi, ils leur apprennent à lire un livre, on les amène en bibliothèque, voilà, maintenant il faut leur apprendre à maîtriser l'internet, et pour ça il y a des façons de le faire.
En ligne avec nous de Ouagadougou, Benjamin Sia, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes responsable des formations au campus numérique francophone de Ouaga, au Burkina. Est-ce que chez vous, le blog est considéré comme un outil d'enseignement ?
Alors, je vais parler peut-être du cas spécifique de l'enseignement secondaire où j'étais avant de venir au campus numérique francophone de Ouagadougou. Donc, au niveau de l'enseignement secondaire, surtout où j'ai travaillé pendant 8 ans, on utilise le blog pour les projets pédagogiques. Aussi pour continuer les échanges avec les élèves en dehors de la classe. Et quand bien même l'accès n'est pas aussi vulgarisé chez nous qu'en Europe, il y a quand même des points d'accès, notamment au niveau des établissements, des grandes villes, et également dans les villes secondaires où il y a l'accès communautaire à travers les cybercentres.
aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on rencontre de manière tout à fait exceptionnelle, ou il y a beaucoup d'enseignants qui regardent vers le blog pour voir comment ils peuvent éventuellement essayer de s'emparer de cet outil?
Non, ce n'est pas. Je dirais que c'est rare, puisque il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas encore mesuré l'importance des TIC, ou ils n'ont pas accès aux TIC, n'en font pas leur priorité. Sinon, je me dis que ça peut jouer un grand rôle, dans la mesure où les élèves, paradoxalement, ont plus accès à ces outils-là à travers l'utilisation communautaire. Rien qu'à voir dans les cybercentres, on voit que les élèves ont un engouement, mais il n'y a que quelques enseignants qui l'utilisent.
Est-ce qu'on peut imaginer que parfois les enseignants ont un peu peur même d'être dépassés par leurs élèves?
Oui, cette peur existe dans la mesure où les élèves ont accès à des informations sur le net et les enseignants qui ne vont pas sur Internet souvent font face à des informations dont ils ne peuvent pas vérifier la véracité et autres. Donc je me dis quand même, Internet lance de nouveaux défis aux enseignants du Burkina et des pays en voie de développement d'une manière générale, et surtout ceux qui sont réticents à aller sur Internet pour pouvoir accéder aux informations, avoir de quelques astuces pour pouvoir analyser et comprendre.
Vincent Olivier, je rappelle que vous êtes le fondateur du web pédagogique. Est-ce que ces exemples, comme ceux signalés par Benjamin Sia à Ouagadougou, d'échanges entre des classes du Nord et du Sud, c'est également un point d'application du blog que vous rencontrez fréquemment?
Oui, c'est l'un de ceux qui, moi, me laisse complètement rêveur. C'est formidable. C'est-à-dire que de voir des échanges entre classes, c'est juste magique. En ce moment, par exemple, on a un petit concours avec la Fédération internationale des professeurs de français. Le principe du concours est assez simple, c'est de dire à des classes qui apprennent le français un peu partout sur la planète, faites un blog, décrivez votre pays, et puis le concours s'appelle Info ou Intox, et dans les billets de blog, donc qui sont rédigés par des gens qui apprennent le français ou qui pratiquent le français, mélangez de l'information vraie et de l'information fausse. Et puis les blogs sont mis en binôme, donc je sais pas moi, un roumain et un brésilien par exemple, et puis aux élèves de classe de repérer ce qui est vrai et ce qui est faux dans les blogs. Bon, c'est super rigolo de voir des roumains discuter avec des brésiliens, de créer leur pays. Alors en plus ils produisent des petites vidéos, ils mettent des photos, etc. Bref, ce qui est formidable avec cet outil là c'est que voilà, les portes de l'école s'ouvrent, quoi, et voilà, on se met brusquement à avoir des copains un peu partout sur la planète. C'est évident que ça fait du bien.
Il y aura peut-être plus besoin d'aller à l'école finalement.
Non, au contraire, parce que ce genre de choses n'est possible que parce qu'il y a l'intermédiation du prof, que parce que bah, lui il va organiser les choses, il va aussi apprendre aux élèves à trier entre l'information. C'est parce qu'elle est brusquement plus facilement accessible que pour autant on sait la trier. Hein, donc je crois que c'est... Il y a toujours une réticence des profs au début parce qu'effectivement ils se disent, oh là là, ils savent faire, moi je sais pas faire. Mais le fond de l'affaire, c'est pas un problème technique. C'est un problème de maturité, de capacité à trier les informations, etc. Et là, fort heureusement, le prof, il sait encore un petit peu mieux que l'élève, quand même.
Merci Vincent Olivier, je rappelle que vous êtes le fondateur du web pédagogique. Merci aussi à Benjamin Sia d'avoir été en ligne avec nous de Ouagadougou.
Merci bien.
Merci d'avoir été avec nous. On retrouve tous les liens vers vos blogs, vos sites et tous ceux que nous avons évoqués sur le site de l'Atelier des médias.
Les journaux, moi j'en ai jamais lu.
Oui, moi mes enfants, ils ont droit qu'à une heure d'internet par semaine. Je dis t'es con ou quoi?
http://atelier.rfi.fr.
La question se pose souvent sur la qualité du contenu proposé par les blogs. Bloguer, est-ce une façon d'écrire ou juste un outil pour publier l'information, Cédric?
Et cette question se pose très souvent, hein, et elle divise Philippe, et c'est plus une question de choix. On peut pas dire aujourd'hui qu'il existe de vérité absolue. Il est autant possible de tenir un blog professionnel avec une écriture journalistique classique que d'écrire un blog en blog, donc c'est-à-dire en inventant ses propres règles. Mais l'essentiel dans les deux cas, c'est bien sûr de se faire lire et d'attirer le maximum de visiteurs.
Certaines opinions qu'on entend fréquemment assurent que l'écriture blog, c'est une écriture pauvre, un appauvrissement de la langue.
C'est un point de vue, mais ce qui est vrai d'autre part, c'est que les blogs sont des tribunes sur lesquelles se côtoient des gens de différents horizons et pas toujours des personnes chevronnées et pratiquantes d'une langue. Certains blogueurs optent pour ce qu'on appelle l'écriture parlée, passant outre les règles rédactionnelles ou grammaticales classiques et se retrouvent tout de même avec des milliers de visiteurs. Mais dans tous les cas, l'essentiel, c'est bien de se faire lire, donc d'attirer des visiteurs, comme je disais. Il existe d'ailleurs des blogs qui proposent des astuces d'écriture à des blogueurs qui ne sont pas chevronnés, qui ne sont sont pas journalistes, qui ne savent pas écrire d'une manière particulière et juste leur donner des astuces pour être bien positionnés dans les moteurs de recherche par exemple et attirer des gens. Et autant les blogs de journalistes où c'est très bien écrit attirent des gens, et d'ailleurs pour une certaine opinion sont un peu chiants, autant pour les autres blogueurs qui écrivent parler, ça marche, il y a des gens qui viennent. Et d'ailleurs je suis tombé sur un article sur le blog Presse Citron qui propose une liste des blogs qui donnent des astuces pour l'écriture pour le web et pour les blogs.
Une adresse qu'on retrouvera sur le site de l'Atelier des médias. Francis Pisani, blogueur, lui aussi nous attend. Merci Cédric, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Philippe.
Quand on veut dire ce qu'on a à dire, il n'y a plus de télévision. Mais si c'est moi qui dis ce que j'ai envie de dire, plus personne ne veut me donner la parole.
Today we'll show you the growing power of the internet. Digital journalism.
C'est simple, je clique sur ajouter un article. Si je veux mettre une photo, je clique sur mettre une image. Je mets mettre en ligne l'article et l'article se met en ligne automatiquement.
Blog, 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 pas de blog, blog.
Et je pense que grâce à Internet, on peut avoir cette proximité qui nous manquait un peu.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Philippe Couve.
On se retrouve comme chaque semaine en ligne de San Francisco et on parle cette semaine de cette épidémie de grippe porcine avec pas mal d'outils sur Internet pour s'informer sur l'évolution de la situation. Quels sont les meilleurs, Francis ?
Écoute, d'abord, la première chose, c'est que s'informer me paraît le premier réflexe à avoir parce qu'il y a plein d'informations contradictoires, que ça peut être dangereux et qu'on exagère volontiers. Le grand avantage, c'est qu'on peut maintenant choisir. Et moi, je commence toujours par la recherche des sources locales, mexicaines, états-uniennes en l'occurrence. Google News est un bon point de départ. Ça permet de trouver des journaux comme Reforma, des stations de télévision comme Televisa. Et j'ai fait le constat sur cet événement de la qualité des infos sélectionnées par Wikio. Ensuite, le premier pas est Wikipédia, qui ouvre immédiatement une page pour un événement de ce genre. Delicious.com permet de trouver les meilleurs articles sélectionnés par d'autres. Pour ceux qui veulent de l'information en direct, rien de mieux que Twitter, on en a déjà parlé plein de fois, en commençant par search.twitter.com et en suivant les tweets de Breaking News, qui est en fait une sorte d'agence qui suit ce qui se passe et qui informe très très rapidement sur Twitter. Mais attention, tout ça se remplit vite de bavardages inintéressants et les erreurs ne manquent pas. Une des bonnes pistes est de chercher ce qui est retweeté, c'est-à-dire jugé assez intéressant pour être transmis à d'autres.
Qu'est-ce que tout ça change finalement par rapport à ce que nous pouvions faire avant le web ?
L'aspect positif, c'est la multiplicité des sources, bien entendu. L'aspect moins positif, c'est le risque accru de désinformation. Mais il y a deux grandes choses. Un, les journalistes, s'ils utilisent les bons outils, peuvent mieux faire leur travail. L'essentiel, et c'est le deuxième point, est sans doute que les gens, nous tous, peuvent s'informer directement, choisir leur source, le moment, la profondeur avec laquelle ils veulent suivre un sujet. Cela entraîne un bouleversement pour les autorités qui ne peuvent pas garder de secret pendant bien longtemps. Cela oblige à plus de transparence et ça, c'est un vrai bouleversement politique. Cela étant, nous devons tous apprendre à nous informer plus complètement, à mieux utiliser les outils, à être plus critiques à mesure que nous sommes plus autonomes dans notre accès à l'information.
Et puis Francis, le journaliste un peu à l'ancienne que je suis, n'oubliera pas sur ces questions médicales de se rapprocher des sources médicales. L'Organisation mondiale de la santé, par exemple, qui communique en temps réel sur ces informations de manière relativement fiable, dirons-nous.
Absolument, c'est une bonne source. Il y a l'Organisation mondiale, il y a le CDC aux États-Unis qui est extrêmement sérieux sur toutes ces choses-là. Et il y a le ministère mexicain de la Santé a fait beaucoup d'efforts pour informer aussi vite que possible. Donc ces sources officielles demeurent et sont toujours utiles.
Merci Francis Pisani, Francis qui chronique quotidiennement les évolutions, révolutions de la société numérique sur le blog Transnet, Transnet au pluriel. Et puis on trouvera un lien sur le site de l'Atelier des médias avec les sites que tu as mentionnés dans cette chronique. À la semaine prochaine Francis.
À la semaine prochaine Philippe.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr
C'était l'émission numéro 80 de l'Atelier des médias proposé par Philippe Couve et Simon Decreuse avec Valérie Royer à la technique aujourd'hui. On attend maintenant vos commentaires sur notre site parce que quand c'est fini ici, ça continue sur le web. Vous tapez Atelier des médias dans votre moteur de recherche et vous arrivez chez nous. Salut à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.